Eh bien, bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un beau temps ici.
Magnifique.
Pas encore très très chaud, mais ça va venir. Il ne faut pas se plaindre, parce que quand il va faire chaud, il va faire chaud. Hein. Alors, on remercie Dieu pour notre frère André, qui était dans le coma, et nous avons prié pour lui, et les médecins ont fait ce qu'il fallait aussi, il faut le dire. Mais soudainement, il est sorti du coma. Gloire à Dieu. Alors, il a mon âge, il a 70 ans. Et c'est sa sœur qui m'entretient de l'évolution. Alors l'autre jour, elle m'écrit, enfin, ça fait déjà trois jours, elle m'écrit, voilà, ils vont enlever l'oxygène. Et les médecins ont dit, si quand on enlève l'oxygène, soit il meurt dans les instants qui suivent, soit il respire par lui-même. Alors en prière. Et puis elle m'a écrit le lendemain, il a bien dormi, il respire toujours, et non seulement, mais il parle en plus. Gloire à Dieu. Voilà notre Dieu des miracles. C'est merveilleux, c'est bien, on est content. On est content pour notre frère André. Dieu te bénisse, mon frère André, si tu écoutes ça. Voilà. Bonjour, bonjour, ça va?
Ça va.
Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont trompés de route. C'est bien. Je reviens sur les deux dernières prédications que j'ai données au sujet du nom de l'Éternel, Jéhovah Nissi. Vous savez que j'ai fait une série sur les sept noms rédempteurs de Dieu qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et le septième nom, c'est Jéhovah Nissi, qui signifie l'Éternel, notre victoire, qu'on peut traduire aussi par l'Éternel, notre bannière, notre victoire. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce que j'ai déjà dit. Allez écouter les deux messages précédents, qui sont vraiment révolutionnaires. Je pense que si les chrétiens vivaient ça, faisaient ça, ça changerait la face du christianisme. On va lire dans Galates, chapitre 3, versets 13 à 14, s'il vous plaît. Galates 3, 13 à 14. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait une malédiction pour nous, car il est écrit « maudit et quiconque pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les gentils, c'est-à-dire pour les gens des nations, par le moyen de Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par le moyen de la foi. Amen. Il fallait que ça vienne aussi sur nous. Mais cette malédiction, elle avait été donnée aux Juifs. Mais elle s'était étendue au monde entier. Et maintenant, Jésus-Christ s'est fait malédiction à notre place pour que nous ne soyons plus maudits. Mais quelle est cette malédiction de la loi qui était sur nous avant notre conversion à Jésus-Christ? Tous les gens que vous voyez qui ne sont pas chrétiens dans le sens biblique du terme, ils peuvent être chrétiens de naissance. Mais comme disait Raphaël, c'est pas parce qu'on est né dans un garage qu'on a une voiture. Il avait raison, hein. Eh bien, c'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne que vous êtes chrétien. Il vous faut être chrétien selon ce que Dieu dit à ce sujet. Eh bien, tous ces gens que vous voyez, en fait, ils sont tous maudits. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ils sont sous une malédiction. Et vous pouvez lire cette malédiction au chapitre 28 du livre du Deutéronome, un livre de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, donc Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, vous avez toutes les malédictions qui tombent sur ceux qui n'obéissent pas à Dieu, c'est-à-dire qui ne connaissent pas ce que Dieu veut, qui ne lisent pas la Bible, qui ne se tiennent pas au courant, qui ne savent pas dans quel temps nous vivons et ce que nous avons à faire. Voilà. Il dit que, à l'époque, il dit que ces mots tomberont sur le peuple d'Israël qui n'obéit pas. Vous obéissez parce que sinon, voilà ce qui va vous arriver. Alors, il donne une liste. Peste, consomption, ça veut dire tuberculose. Fièvre, inflammation, jaunisse, gangrène, ulcère, hémorroïde, gale, teigne, cécité, ulcère malin, etc. Alors, si la maladie dont vous êtes atteint n'est pas sur cette liste, eh bien, vous allez lire plus loin dans le chapitre 28 que toutes les maladies qui étaient tombées sur les Égyptiens, toutes les maladies et toutes les plaies qui sont tombées sur eux, et qui ne sont pas mentionnés dans le livre de la loi de Moïse, tomberont sur le peuple d'Israël si Israël n'obéit pas. Alors forcément, vous allez y trouver votre cas. Mais Paul nous dit, que Jésus-Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi. Gloire à Dieu. Il nous a rachetés. Et que Christ est devenu malédiction pour nous. Ça signifie que, avant que nous marchions avec Jésus, avant que nous le recevions comme sauveur et comme maître auquel nous obéissons, eh bien nous étions tous maudits. Et que Jésus a ôté cette malédiction qui était sur nous en devenant maudit à notre place. C'est ça que ce texte veut dire. Au chapitre 28 de Deutéronome, la malédiction qui était sur nous incluait toutes les maladies de toutes et toutes les plaies de l'histoire du monde. Deutéronome 28, 60, 61. Et Jésus a porté la punition qui était exigée par cette même loi. Et la punition, c'était quoi? La mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et c'est pour ça qu'il a pris sur lui nos infirmités et qu'il a porté nos maladies, comme le dit l'apôtre Matthieu dans son livre, dans son évangile, au chapitre 8, verset 17. Il a porté sur lui nos maladies, nos infirmités, nos souffrances. Alors, Ève et Adam ont vendu l'humanité en esclavage au diable. Ils nous ont soumis à la puissance du diable, sous la juridiction du diable. Dieu a dit, ok, faites comme vous voulez. Voilà, maintenant, c'est le diable qui est le prince de ce monde. Bah, et puis il nous a laissé. Il a laissé l'humanité. Il s'est choisi un peuple qu'il a enseigné, qu'il a dirigé, qu'il a conduit pour que, en fait, il puisse apporter au monde la délivrance de cette malédiction. Mais ça a pris du temps. Que de souffrance depuis. Et Jésus-Christ est venu et nous a rachetés au prix de son sang. Le prix qu'il a payé, parce qu'il est question de rachat, rédemption ça veut dire rachat, le prix qu'il a payé, c'est pas rien, c'est sa vie, il a donné son sang pour nous, pour que nous soyons rachetés. Lisons 1 Corinthiens 6, 19-20. Quoi ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, lequel est en vous, donc le Saint-Esprit est en vous, lequel vous avez de Dieu, vous l'avez reçu de Dieu, et ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas, parce que vous avez été racheté à un prix? Par conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jésus a tout porté, nos péchés, notre esprit peut être libéré, et nos maladies, notre corps peut être libéré, et notre corps et notre esprit, tout ça, ça appartient à Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu en chair. On va dire, attends Michel, qu'est-ce que tu nous racontes? Jésus, c'est Dieu avec nous. On le voit tout de suite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1. Jésus, c'est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, tant pis s'il ne s'appelait pas au témoin de Jéhovah, tant pis s'il ne s'appelait pas au Trinitaire, tant pis, je m'en fiche, moi c'est ce que la Bible dit qui est important. Dieu est venu en chair pour payer le prix qui nous rachète de ces malédictions. Alors, est-ce que vous compreniez mieux ce que signifie la croix, l'œuvre qui a été faite à la croix? En fait, l'œuvre qui a été faite à la croix, c'est notre proclamation d'émancipation. Émancipation, émanciper, ça signifie quoi? Émanciper, ça signifie que désormais, nous avons la pleine capacité juridique. C'est nous qui nous sommes libres et nous avons une capacité juridique, légale. C'est le message de la Bible, c'est notre proclamation d'émancipation de tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu ne veut pas que nous soyons attaqués, attristés, malades, tourmentés, persécutés, toutes ces choses-là. Non, 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 il ne veut pas ça. Il veut que notre ennemi nous lâche. Il faut parler et agir en accord avec ça, avec ce qu'il veut, avec ce qu'il a proclamé. Confessez votre liberté, C'est le contraire de confesser votre esclavage. Proclamez donc, par ces meurtrissures, je suis guéri, au lieu de toujours parler de vos maladies. Je sais que c'est très courant, on parle tout le temps, les gens parlent tout le temps de ça, c'est terrible. Proclamez publiquement que la domination de Satan sur vous a pris fin à la croix, c'est là que Dieu vous a libéré, que vous avez été émancipé. Dieu le dit dans la Bible, alors dites-le aussi. Dites comme Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le droit de parler comme votre père. Vous savez, quand les esclaves ont appris qu'il y avait eu au gouvernement une proclamation d'émancipation, ils n'étaient plus des esclaves, ils n'étaient plus considérés comme des esclaves légalement. Quand ils l'ont appris, ils étaient encore dans leur gourbi. Quand ils l'ont appris, ils avaient encore l'apparence d'esclaves. Quand ils l'ont appris, ils se sentaient encore esclaves. Ils étaient esclaves depuis des générations. Vous pensez que d'une seconde à l'autre, ils ont dit « Bon, youpi, on n'est plus des esclaves. » Non, ça a été, c'était une réalité légale. Mais ils avaient toujours cette impression, c'était presque dans leur gène, c'était terrible. En entendant cette proclamation, ils savaient qu'ils avaient légalement le droit de dire « Je suis libre », et non pas seulement de le dire, mais de profiter de cette liberté. Alors pour beaucoup, ça a été très difficile à cause de la bêtise et de la méchanceté de blancs qui étaient racistes et qui leur ont mené la vie dure, qui leur mènent encore la vie dure. Mais cette proclamation d'émancipation était un écrit légal. C'était légal, ils étaient libres. Ils avaient encore des ennemis, mais ils étaient libres. Ils avaient la loi pour eux. Sauf quand la loi était corrompue par des blancs corrompus, racistes à leur part. Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ne pouvez-vous pas vous-même croire à la proclamation de votre émancipation, à la proclamation de votre liberté? Dieu dit, ça y est, tu es libre maintenant. Le diable n'a plus le droit de te tenir comme ça. Il n'a plus le droit légal. Si vous voulez, le diable, il est comme les blancs racistes avec les noirs. Ou les blancs racistes sont comme le diable avec vous. Galates chapitre 1, il nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. J'ai été jeter un coup d'œil sur le blog de Richie, je me suis marré, je vois qu'il écoute mes prédications parce qu'il prêche contre là. Il dit, c'est une fausse liberté, là, 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 là. Il dit, il n'y a plus le Saint-Esprit qui conduit, les réunions à telle et telle heure. Comme ça. Oui, les réunions à telle et telle heure. Attends, pour lui c'est facile d'avoir des réunions n'importe quand puisque c'est des réunions qu'il a avec sa femme dans sa cuisine. Mais quand vous avez des centaines de personnes qui viennent vous écouter, vous êtes bien obligé de dire qu'à quelle heure vous allez prêcher. Non mais il ne change pas quoi. Oh, il ne change pas. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Voyons de quoi il vous a affranchi. Vous êtes libre, confessez-le, proclamez-le. Dites au diable que vous avez découvert la vérité, parce que le diable, il sait que vous êtes libre. Il le sait depuis le moment où Jésus est mort sur la croix. Tout à coup, il a réalisé, oui, j'ai fait une bêtise. Quand il est entré dans Judas pour que Judas aille le vendre comment on appelle ça ? Aux religieux.
C'est toujours des religieux.
Eh bien, il a pas pensé dans sa haine et dans sa bêtise et dans sa raideur de cou et dans tout ce qui compte. Voilà. Eh bien, il n'a pas pensé qu'il était en train de se ficher en l'air lui-même. Comme la plupart des abrutis qui font du mal, ils ne se rendent pas compte que c'est à eux qu'ils font du mal. Le diable, il sait que vous êtes libre, il le sait depuis 2000 ans, mais il vous ment, il vous a menti jusqu'à maintenant. Il a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne savent pas ou de ceux qui ne croient pas. On trouve ça dans 2 Corinthiens 4, 4. Il a aveuglé leur intelligence. Alors, Dieu dit à Satan, Maintenant, tu n'es plus leur maître. Et nous avons à dire la même chose. Nous avons à dire que nous connaissons la vérité et que la vérité nous a franchis de lui. Nous n'avons plus à être sous la juridiction du diable, sous son autorité et sous sa puissance. Dites-lui que par la proclamation que vous faites de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait sur la croix, vous êtes libre de sa domination et que vous le savez. Il faut lui dire en pleine figure. Vous savez, cette déclaration écrite dans la Sainte Bible, ce sont nos souffrances que Jésus a portées, ce sont de nos douleurs dont il s'est chargé. Cette déclaration écrite dans le livre de Dieu, c'est comme un chèque de Dieu pour votre parfaite guérison et la délivrance de tout ce qui vous fait souffrir. Mais encore faut-il l'encaisser, ce chèque. Moi, il y a un chèque que je n'ai jamais encaissé. C'est Frère Osborne, un jour, qui m'a donné un chèque de 100 euros. J'ai dit, oh non, ça c'est tellement extraordinaire de recevoir un chèque de cet homme de Dieu que je l'ai gardé, je l'ai encadré, je ne l'ai pas encaissé. Mais si je l'encaisse, enfin peut-être plus maintenant, hein, il y a des années de ça. Hein. Mais vous pouvez toujours encaisser le chèque de Dieu. Comment, quand, où? En proclamant par votre foi ce qui est écrit dans la Sainte Bible. C'est la proclamation, et vous recevrez votre guérison, la délivrance de tout ce qui vous tourmente. Rappelez-vous, Jésus est le souverain sacrificateur de votre proclamation de foi. C'est-à-dire que quand vous proclamez la vérité biblique, que vous dites « Jésus a porté mes maladies, il s'est chargé de mes douleurs, il s'est chargé de mes souffrances, il s'est chargé de mes problèmes, il s'est chargé de tout ce qui nuit à ma vie, rien ne peut me nuire », quand vous dites ça, Jésus prend ce que vous dites et il offre ça à Dieu comme un sacrifice d'odeur agréable, et Dieu se lève de son trône et vous bénit. Voilà ce que ça signifie, qu'il est le sacrificateur, souverain sacrificateur de notre proclamation de foi. Ou d'autres versions, de notre confession de foi, ou d'autres versions, de notre profession de foi. Mais tout ça, ça veut dire la même chose, ça veut dire de ce que l'on dit, de ce qu'on confesse, de ce qu'on proclame. Les mots de votre corps ont été déposés sur Jésus, il les a portés, vous n'avez pas à les porter vous. Il suffit de croire qu'il les a portés et de commencer à confesser, à le proclamer, à le dire. Votre seul grand danger, c'est de rester enchaîné dans vos certitudes comme un esclave. Moi, je me rappelle, j'avais vu un film de Laurel et Hardy où on les voyait tourner dans une... comment on appelle ça? Une tranchée. Et la tranchée, alors, elle était profonde parce que c'était des soldats de la guerre de 14-18. Ils n'avaient pas su que la guerre était finie et c'était en 1928, ils tournaient encore dans la tranchée. Mais vous avez des chrétiens comme ça, ils sont comme Laurel et Hardy, ils tournent encore en rond dans leur tranchée d'esclaves. Ils ne savent pas qu'ils sont libres, que la guerre est finie, que c'est terminé, que l'ennemi est vaincu, ils ne savent pas. C'est leur hymne. Seuls ceux qui osent prendre les paroles de Dieu au mot sont vraiment libres. Et parce que Satan, c'est un trompeur, c'est un manipulateur, c'est un méchant, comme ces racistes qui maltraitaient et qui maltraitent encore ceux qui sont libres. Alors réjouissez-vous dans la liberté qui est la vôtre, c'est à vous. Pour trop peu de chrétiens, le rachat, la rédemption, c'est pas devenu une réalité, c'est juste une doctrine. C'est juste une doctrine, un dogme. Mais Satan a tiré avantage de cette ignorance dans l'Église. Il n'arrête pas de tirer avantage de ça, il se marre, ça le fait rigoler. Il se glisse dans les assemblées, et puis pendant que le pasteur prêche, bah, il dit à l'oreille des gens, il dit « Écoute pas ça, c'est pas vrai, tu vois bien que c'est pas vrai, tu vois bien que t'es malade, il faut pas raconter des histoires, le pasteur il exagère, il fait de la pensée positive, mais non, arrête, c'est pas vrai. Hein. » C'est Raphaël qui disait ça, il disait « Le diable se glisse dans les assemblées puis il vous parle à l'oreille. » Il vous dit pas écouter le prédicateur, que c'est pas vrai, que c'est un fanatique. C'est... On va relire 1 Corinthiens 6:20. 1 Corinthiens 6:20 qu'on a déjà lu. On va le relire. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Et votre corps appartient à Dieu. Dites-le au diable. Satan, tu es un menteur. Tu sais que je suis une propriété rachetée parce que j'ai reçu Jésus comme mon racheteur. Je lui appartiens. Il est mon rédempteur. Je ne t'appartiens plus. Je ne suis plus un territoire où tu peux déposer tes saletés. Tu n'as plus de droits légaux d'empiéter sur mon territoire parce que c'est mon territoire, tout ce qui est à Dieu est à moi parce que je suis fils de Dieu, je suis héritier et co-héritier avec Christ, donc mon corps m'appartient, il appartient à Dieu, il t'appartient plus à toi. Dégage au nom de Jésus, dégage, je suis plus à toi, je suis plus sous ta juridiction, j'ai été racheté de ton autorité par Jésus Christ, lui qui a créé les cieux et la terre, il est plus fort que toi, t'es rien. Je te commande au nom de Jésus-Christ d'arrêter maintenant, de sortir avec ton lot de maladies et de cochonneries. Au nom de Jésus-Christ, je suis libéré de la malédiction de la loi de Moïse, de Deutéronome chapitre 28, j'en suis libéré. Voilà. Parce que Dieu avait donné cette loi, pourquoi ? Ben, il nous le dit un peu plus loin dans la Bible, pour nous prouver que tout seul on ne peut pas y arriver. On ne peut pas obéir à la loi. On ne peut pas. Donc on désobéit, on est des désobéissants. Mais Jésus est venu nous racheter de cette malédiction qui est tombée sur nous depuis que Ève et Adam ont fait leur bêtise d'avoir dans le jardin. Et maintenant, eh bien, on sait qu'on ne peut pas faire autrement que. On désobéit, on est des bêtes comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais maintenant, on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres. On est délivré de la malédiction, non pas par les œuvres qu'on fait, mais par la foi que nous avons et la proclamation de notre croyance en Dieu et dans ce qu'il a fait. Parce qu'il est écrit, par ses meurtrissures, je suis guéri, je le suis, parce que Dieu le dit, et je le dis aussi. Dites à Satan, t'es un menteur, tes douleurs sont des mensonges, des symptômes sont des mensonges, ainsi que tes paroles, tes chuchotements, tes suggestions. Jésus a dit que tu es le père du mensonge, tu es le père du mensonge. Puis c'est tout. C'est comme ça. Et après avoir dit ça, ben vous remerciez Dieu, vous louez l'Éternel, vous bénissez le Seigneur pour sa délivrance et tout. Vous rentrez dans la louange, Dieu habite la louange de son peuple. Vous voyez, Satan n'ignore rien de tout ce que je suis en train de vous dire là. Il sait ça parfaitement. Mais c'est seulement lorsqu'il sait que vous l'avez découvert qu'il doit respecter vos paroles. Seulement quand il sait que vous l'avez découvert. Et peu de gens réalisent qu'ils sont affranchis de la domination de Satan. Écoutez-les. Le diable m'a attaqué. Oh, qu'est-ce que. Alors, on était bénis. Qu'est-ce que le diable va nous mettre ? Est-ce que la Bible dit plus de choses à ce sujet ? On va lire Galates, chapitre 2, verset 2. Galates, chapitre 2, verset. Non, pas verset 2, verset 20. Ou peut-être, je ne sais pas. Non, c'est verset 20. Galates 2, 20. Je suis, alors c'est Paul il dit, mais s'il le dit lui, je peux le dire moi. Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis. Cependant, pas moi, mais Christ vit en moi. Il est en train de dire quoi ? Il dit, je suis là, vous me voyez, mais en fait, c'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Si vous dites ça au diable, vous croyez qu'il va oser mettre le coronavirus sur vous ? Vous croyez qu'il va oser le faire en sachant que c'est plus vous qui vivez, mais que c'est Christ qui vit en vous ? Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis. Cependant, pas moi, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. C'est même pas ma foi, c'est la foi du Fils de Dieu. Je vis par la foi du Fils de Dieu qui vit en moi. Mais dites-le, Dites-le. Colossiens 2, 20. C'est pourquoi si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, bien que vivant dans le monde, êtes-vous assujetti aux ordonnances? Vous êtes mort en Christ, avec Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque Jésus a été crucifié, vous avez été crucifié avec lui. Galates 2, 20. Vous avez été crucifié avec lui. Vous me dites, mais je n'étais même pas né. Vous en êtes encore là? Dieu n'est pas dans le temps, c'est nous qui sommes dans le temps. Hein? Là, 5 février, chaque année, c'est mon anniversaire, et puis voilà, puis Noël tombe en général le 24 décembre, c'est ça? Hein? Je ne sais plus. Hein? Ben, voilà, puis c'est comme ça, puis le temps passe. Hein? Mais pour nous, c'est comme ça. Mais pour Dieu, il n'y a pas de temps. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, Dieu savait déjà qu'on allait venir sur cette terre et il a mis tout ça, il nous a mis en Christ, même avant qu'on naisse. Est-ce que vous pouvez croire un truc pareil? Moi je crois ça, parce que c'est écrit. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, vous avez été crucifié avec lui. Alors dès lors, Paul dit, eh bien, nous sommes morts avec Christ, Colossiens 2, 20, je viens de vous le dire. On est mort avec lui. Quand vous voyez Jésus sur une croix, dans une église ou n'importe où, vous dire, j'étais là avec lui. Il dit même plus, il dit, nous avons été ensevelis avec lui. Colossiens 2, 12. Alors, j'espère que c'est ça. Colossiens 2, 12. Enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscité avec lui par le moyen de la foi, de l'opération de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Enseveli avec lui dans le baptême. Romains chapitre 6, 3, 4. Ne savez-vous pas que tant d'entre nous qui furent baptisés en Jésus-Christ furent baptisés dans sa mort, par conséquent, nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans sa mort, afin que comme Christ fut ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui. Quand Jésus est sorti triomphant du tombeau, nous sommes ressuscités avec lui. Vous allez me dire, mais Michel, mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Mais qu'est-ce que c'est que... C'est pas une doctrine. C'est ce que tous les vrais chrétiens devraient croire, parce que c'est écrit dans la Bible. Encore, bien sûr, ils ne disent pas la Bible. Éphésiens 2, versets 5, 6. Lorsque nous étions morts dans les péchés, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que nous sommes ressuscités. Quand Jésus est sorti du tombeau, nous sommes sortis du tombeau avec lui. Nous avons été mis en lui quand il était sur la croix. Bam! C'est ça qu'il a maudit. Il est mort avec ça. Nous sommes morts en même temps. Nous avons été mis dans le tombeau. On le démontre en se faisant plonger dans l'eau, en étant baptisé. On montre qu'on est baptisé en Christ, qu'on est effectivement mort à notre vieille vie. Et puis on ressort de l'eau, ça c'est le symbole de notre résurrection. Parce que quand Christ est ressuscité, nous étions là, nous sommes ressuscités avec lui. Vous me direz, mais j'étais pas né. Bon, vous n'avez rien compris. Allez écouter Europe 1, il y a des informations sur le coronavirus. Ça va être plus intéressant. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Dieu nous a ressuscités avec lui. Nous sommes déjà assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une vérité spirituelle. C'est vrai. Et comme dit l'apôtre Paul, bon, ben, c'est vrai que vous me voyez, je vis, c'est là, mais c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, mais Christ est en moi sur la terre. Est-ce que vous arrivez à croire ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous voulez le croire, le vivre, et vous mettre à marcher comme des vainqueurs plutôt que d'être des vaincus constamment, toujours en train de mendier pour le moindre des choses, de prioter, de supplier Dieu de faire alors qu'il a déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà accompli, tout est accompli, c'est tout fait. Amen. Mais cette vérité, elle n'est utile que pour ceux qui y croient. Pour ceux qui n'y croient pas, ça ne sert à rien du tout. Cette vérité ne sert à rien. Pour les incroyants, c'est une énorme idiotie. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un scandale pour les non-croyants, cette histoire de croix, c'est une folie. Pour nous qui croyons, nous croyons que quand Jésus est retourné sur son trône, à la droite du Père, comme c'est écrit dans Marc 16, 9, il nous a fait asseoir avec lui, sur son trône, dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6. Vous irez voir, c'est écrit Éphésiens 2, 6. Alors oui, nous sommes apparemment ici, mais en esprit nous sommes déjà dans le ciel. Est-ce que vous pouvez croire ça? Moi je crois ça. Je refuse de croire autre chose. Il y a des gens qui disent que c'est des chrétiens, hein, qui disent que c'est une croyance erronée. Tout. Non, c'est pas erroné puisque c'est dans la Bible. Par contre, de croire que la Vierge Marie est montée au ciel, ça c'est une croyance erronée. Vous feriez bien de choisir vos croyances, celles qui sont dans la Bible ou les autres. Celles qui ne sont pas dans la Bible, elles vous apportent quoi? Des sentiments, des pleurnichages, des échecs, et puis de temps en temps un petit mensonge du diable pour vous faire croire que vous êtes dans la vérité. C'est tout. Jésus n'avait pas besoin de vaincre Satan pour lui-même, il l'a fait pour nous. Il n'avait pas de péché à porter à la croix pour lui-même, il était sans péché, il s'est chargé des nôtres. J'ai vu l'autre jour un chrétien qui a rétrogradé puis qui me dit « Tu parles que Jésus n'avait pas de péché, quelle honte !» Un type qui a été chrétien et qui dit une chose pareille. Mais comment c'est possible? Moi, je ne crois pas qu'il ait été chrétien un jour, je ne crois pas, c'est pas possible de dire un truc pareil. Et maintenant, nous sommes recréés en Jésus-Christ, qui est assis sur son trône céleste, et nous sommes participants avec lui, n'est-ce pas écrit? Nous devenons vainqueurs avec lui, à travers lui, n'est-ce pas écrit? Dans toute chose, pas seulement dans la maladie, mais pour tout, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, chapitre 8, verset 36-37. Que dire de tout ça? Eh bien, que vous n'êtes plus des moutons bons pour l'abattoir. C'est fini ça. C'est le diable qui est bon pour l'abattoir. C'est le diable, c'est pas vous. Vous êtes plus que vainqueur par Jésus-Christ. Amen. Jésus, je te prie de venir mes frères et sœurs, de les aider à prendre ces choses, de se saisir de ces vérités et de se tenir ferme, droit, comme un lit. Et de proclamer au nom de Jésus-Christ, Satan, tu es un menteur, je ne te crois pas, je ne crois pas les évidences des symptômes, je nie tout ça au nom de Jésus-Christ, j'ai ma guérison, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, ces gens qui m'attaquent et qui m'embêtent, ils sont vaincus au nom de Jésus et je les précipite dans la défaite et dans l'échec puisqu'ils osent s'attaquer à Jésus-Christ qui vit en moi. C'est moi qui suis le vainqueur, c'est moi qui suis le gagnant parce que je marche dans la foi, dans ce que tu as dit Seigneur Jésus. Satan, tu es vaincu. Amen. Amen. Osez dire ces choses-là, dites-les avec autorité. Ne demandez pas à Dieu de vous donner l'autorité, vous l'avez. Les Noirs, quand ils ont appris qu'ils étaient esclaves, il y en a certainement parmi eux qui disaient « mais est-ce que vraiment c'est vrai ?»« mais bon, on va peut-être quand même pas, hein, on va rester chez notre maître, notre bon maître, évidemment. »« Ah non, sortez de là, foutez le camp !» J'ai vu un film qui s'appelle l'homme qui est devenu le majordome. Le majordome, ça s'appelle. C'est comme ça, non? Le majordome. C'est un type Il travaillait, il était gamin, il travaillait dans les... C'est vrai, c'est une histoire vraie. Il travaillait dans les champs de coton, et il a vu le maître blanc, hein, ce charmant salopard raciste de merde, violer sa mère, et ensuite il l'a vu tuer son propre père. Il s'est enfui, et puis il a commencé à faire des petits boulots, puis il y a un type qui l'a pris sous son aile, puis qui l'a aidé un petit peu à savoir comment faire avec les blancs, etc., etc., parce que, voilà. Et vous savez comment il a fini, ce type-là ? Majordome de 7 présidents des États-Unis. À la Maison-Blanche, il travaillait. Voilà un mec, il aurait pu rester toute sa vie traumatisé à cause de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait vécu. Oui, bien sûr qu'il était certainement traumatisé, oui, bien sûr. Mais il n'a jamais montré de faiblesse, il s'est levé fièrement. Et puis il a fait ce qu'il avait à faire de mieux, et il a réussi. Achetez ce film, vous le trouvez sur Amazon, sur Google, n'importe où, vous le trouvez à la FNAC. De toute façon, je m'en fiche, si vous ne voulez pas l'acheter, c'est pas grave. Mais c'est tellement inspirant de voir un homme qui refuse, n'est-ce pas, la méchanceté, la bêtise humaine, et qui devient tellement un homme tellement important. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Eh bien, vous êtes des gens importants, mais le diable vous fait croire que vous êtes des rien du tout. Arrêtez de croire que vous êtes des rien du tout. Jésus n'est pas mort pour des rien du tout. Soyez vainqueurs, au nom de Jésus. Amen. Vendredi prochain, c'est pas moi qui prêche, c'est Nicolas Savadogo, à moins qu'il soit arrêté à la frontière avec le coronavirus. Non, je crois pas. Il sera là, donc il va arriver chez nous jeudi, et le vendredi il va prêcher, le dimanche aussi il va prêcher. Écoutez bien cet homme de Dieu, là lui aussi, oui. Lui c'est un Africain, il avait été rejeté de son village parce qu'il s'est converti. Son père était le chef des masques, c'est-à-dire le chef des sorciers, si vous voulez. Et comme il est devenu chrétien, le Nicolas, ben, son père l'a banni du village, il était banni du village. Il mangeait dans les poubelles de la caserne des militaires. Il se lavait dans les fossés au bord de la route. Hein? Quand je l'ai connu, il n'avait rien de rien de rien. À l'aéroport, il est venu vers moi pour porter mes valises. J'ai dit non, il n'est pas question que tu portes mes valises. Je peux porter mes valises. J'avais l'impression d'être le gros colon blanc là, qui se portait ses valises par le petit nègre. Non, mais quelle horreur. Et puis on est devenus amis. Et maintenant, non seulement il est resté chrétien, mais il a fait la preuve qu'il était un homme de valeur, à tel point qu'il est devenu le maire de la ville où il avait été banni. Une ville de 50 000 habitants. Voilà, gagnant. Hier soir, à Fada, il y a eu un défilé de mode. C'est mon frère Boukari Kwadima, directeur de plusieurs centres d'écoles de couture, de coiffure et de tissage maintenant. Il a 3 écoles comme ça, enfin il a plus que ça, mais il a 3 secteurs. Cet homme-là, il n'avait rien, mais rien de rien de rien. Il en témoigne, il va peut-être venir au mois d'août, il vous racontera lui-même. Et j'ai prophétisé sur sa vie, il a cru ce que j'ai dit, il a pris ce que j'ai dit, par la foi. Et maintenant, voilà où il en est. Et bien, hier soir, il faisait un grand défilé de mode avec toutes ses productions. Je vais recevoir les photos, je vais les mettre sur Révélation Bible, vous allez voir, c'est magnifique. C'est là où j'ai prié pour cette petite jeune fille qui était sourde et muette. Vous vous rappelez, la petite Sandrine? Il y a une vidéo de ça sur YouTube. Elle avait un démon de sourdité. Elle était guérie. Ben, c'est dans cette école, une de ces écoles avec Kwadima Boukari. Voilà un homme qui a cru ce que j'ai dit et qui s'est mis au travail dans le sens de la victoire et non pas toujours de se comporter comme une victime. Oh, il aurait pu, hein. Non, il s'est battu. Il va venir au mois d'août, il m'a dit, j'aimerais bien venir au mois d'août. Je me réjouis, ça sera super. Mais voilà, ça c'est des bons exemples. Vivez dans la victoire, que Dieu vous bénisse. En tout cas, vendredi, ce sera Nicolas, et il va vous parler, il va vous exhorter. Moi, je le vois bien finir comme président là-bas, au Burkina Faso. On en reparlera dans quelques années. Allez, bye. Dieu vous bénisse. Au revoir.